Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE. Je suis Yarem et avec moi j'ai l'ami Hank. Salut Hank.
Ah ah, j'ai tué Giscal.
Giscal is dead.
Giscal is dead.
Giscal est encore en train de regarder WrestleMania.
Ça va, ouais, ouais. Giscal n'était pas disponible pour une fois pour le show bleu. Et donc voilà, j'ai décidé d'être dans le maximum d'émissions en 7 jours. Donc j'ai presque tout fait sauf Raw.
Bon, bah autant dire que de toute façon, t'as vu Raw, t'as vu SmackDown. Hein. T'as vu SmackDown, t'as
oui,
vu Raw.
Tout hein. J'ai tout vu, monsieur.
C'était un petit peu, de toute façon, c'était un petit peu le mode repeat là, pour le show bleu. On est resté un peu dans le même style que le show rouge. C'est le lendemain de soirée, on prend son temps, on est là pour célébrer notre nouveau champion, le champion préféré de Rank, l'homme au cœur d'or, l'homme qui se bat pour ses convictions, Kofi Kingston. Il est accompagné du New Day. Biggie nous parle voilà de ce grand moment qu'il a vécu. Il nous place un petit grand écart là. Alors, je sais pas si c'est un nouveau truc là, de faire le grand écart devant tout le monde. Ils ont fait l'histoire hein, à WrestleMania. Ils continuent de vouloir faire l'histoire ensemble. Sous-entendu, on a un champion noir à la WWE. C'est rare, profitez-en.
C'est la première fois, cette ceinture-là, c'est la première fois.
C'est vrai. Ouais, parce que sinon, c'était quoi ? On a eu Booker T avec le titre poids lourd, c'est ça ?
Oui, c'est possible, oui, il me semble. J'ai pas vérifié.
Et Mark Henry, mais c'est vrai que le titre...
Mark Henry, je me souviens qu'il avait le... Il avait eu le heavyweight.
Mais voilà, c'est rare ces moments-là. Xavier Woods aussi, hein, est honoré d'avoir suivi la carrière de Kofi. Hein. On se souvient, il y a quelques années, il avait avoué que son objectif à Xavier Woods, c'était pas de devenir champion, c'était de faire en sorte que Kofi devienne champion. On peut dire que 3 ans plus tard, mission accomplie pour Xavier Woods. Mmh. Donc ils restent ensemble, il y a un lien vraiment très fort entre les deux, et ils sont là pour apporter le changement, le vent du changement qui va souffler de la bouche de Kofi. mais Kofi dit que tout ça, c'est voilà. Kofi après prend le micro, parce que voilà, on sait que Kofi a du mal à prendre le micro, mais il a fini par prendre le micro. Il a dit que tout ça était impossible, incroyable, mais il l'a fait. Il remercie encore sa famille, il en place une pour sa famille. Mais The Bar est là. The Bar interrompt à nouveau la célébration des champions. Et c'était plutôt bien vu, j'ai trouvé. Il nous dit qu'en fait, il nous raconte qu'ils ont sauvé Kofi. S'ils sont intervenus hier, c'était à Raw, c'était pour sauver Kofi d'une horrible défaite. Et donc empêcher Rollins de lui piquer le titre. Et du coup, il propose un six-man match ce soir. Alors Biggie fait, mais attends, t'es con ou quoi? Vous êtes que deux, on est trois, c'est pas possible. Et là, les petits Européens nous expliquent qu'ils se sont fait un ami, un nouveau copain à Monday Night Raw. Et ce nouveau copain... ce nouveau copain, c'est pas un Irlandais, c'est pas un Suisse, c'est un Écossais. Drew McIntyre est là, et du coup, on aura notre main event, un 3v3 ce soir. Bon, bah écoute, Kofi Kingston continue sa tournée nouveau champion. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette célébration pleine de jolis ballons de toutes les couleurs, hein, couleurs arc-en-ciel.
Alors j'avais déjà dit dans la review de Mania que j'avais eu du mal avec le match Brian Kingston. Enfin, du mal à croire à l'histoire de Kofi Kingston, en fait. C'est-à-dire que le symbole est très beau, etc. La façon dont c'est raconté est tellement fausse. Enfin, tout ça sonne très faux, quoi. Mais parce qu'il n'a pas, voilà, pour moi, il n'a pas démontré que voilà, il s'est dépassé vraiment pour devenir champion. En fait, c'était exactement le même Kofi Kingston qu'on a connu avec les mêmes prises, etc. Et puis là, pour célébrer le fait qu'il soit champion, et bah, il laisse ses potes parler pendant 5 minutes, et puis à la fin, il prend 30 secondes pour dire merci ma femme, merci à Dieu, merci.
Ouais. Non,
c'est, on a vraiment. Il n'y a aucun. ça manque totalement de relief. Heureusement que The Bar arrive, parce que il y a pas d'énergie en fait dans ce qu'il dit. C'est un peu l'exact inverse de Becky Lynch qui a réussi, enfin on va en parler après, qui a réussi à faire la même promo de façon un poil différente, ouais, mais avec la même énergie deux jours de suite. Et du coup, elle est, moi j'ai trouvé convaincante même la deuxième fois, quoi. Mais là, Kofi Kingston, on dirait qu'il a vraiment pas la hargne en fait. Il est juste content et puis il est limite en train de dire merci de m'avoir offert ça en fait, comme s'il l'avait pas gagné, quoi. C'est un peu. Moi je trouve qu'il donne tellement l'impression qu'on lui a donné le truc dans les mains, voilà, et que
service rendu,
pas,
quoi.
C'est pas l'histoire du, voilà, pour moi c'est pas du tout Kofi Kingston, c'est pas l'histoire du B+ player qui a su se dépasser ou alors qui était mésestimé, etc. J'ai plus l'impression du gars ouais, où on s'est rendu compte ah merde, mais Kofi en fait il est vachement sympa et tout, et puis il mérite d'avoir une ceinture un peu en trophée de participation, quoi.
un beau trophée de participation, ceci.
Oui, voilà, mais l'embêtant c'est que du coup ça construit pas un champion, moi, auquel je m'attache. Et je pense que le public, même si là on est toujours dans l'effet, dans la vague,
ça va pas durer, ouais.
Je pense que si ça continue comme ça pendant deux semaines, je pense que le public va vite, très vite, se calmer, parce que voilà, il y a vraiment pas d'écriture derrière lui. Par contre, derrière The Bar, il y en a une, ouais. J'ai trouvé justement, ouais, ce raisonnement, c'est le genre de détail qui n'est pas vraiment un détail d'ailleurs, mais le genre d'explication.
C'est peut-être un détail pour vous, mais pour Hank, ça veut dire beaucoup.
Quand ils expliquent leurs actions comme ça, j'adore quand il y a une intervention dans un match et soit avant ou soit après, on nous explique, enfin il y a un moment où on comprend vraiment pourquoi il y a eu une intervention, c'était pas juste sorti de nulle part, parce que Arrow, ça sortait un peu de nulle part, quoi. The Bar qui arrivait comme ça, c'était juste genre, est-ce qu'ils sont juste là pour faire chier, et leur raisonnement se tient finalement,
parce bah ouais, que
au niveau kayfabe, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Seth Rollins, Kofi Kingston, c'est Seth Rollins qui va gagner, donc voilà. Ça se tenait plutôt bien.
Ouais, non, c'est vrai que c'est assez rare pour le souligner. En plus, ça rajoute un peu de la mauvaise foi. Il y a à la fois l'explication de pourquoi ils sont intervenus, et en plus, ça rajoute un peu de hit, parce que les gens n'ont pas envie d'entendre que leur champion allait perdre la veille et qu'il a été sauvé par deux vilains garnements. Donc ça, c'était plutôt bien vu. Et l'arrivée, en plus, de Drew McIntyre. Alors, on est à une semaine du shake-up, donc on sait...
Ils nous ont spoilé quelques drafts qui vont se passer la semaine prochaine.
Tu veux dire dans cet épisode-là ?
Oui.
Enfin, dans les deux épisodes qu'on a eu. Ouais, je pense qu'il y a.
Mais
ouais. Je pense qu'il y a deux, trois.
Il va forcément être à SmackDown, McIntyre.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a autant il y a deux, trois peut-être des apparitions, que c'est plus des tests, on n'est pas trop sûr. Autant là, celle de Drew McIntyre, c'est une entrée en fanfare et c'est tellement bien amené et bien écrit, si je puis dire, que ce serait dommage de pas valider ce transfert.
Et puis c'est parfait parce que ça fait oublier sa défaite contre Reigns. C'est vraiment du bon.
Bon, on verra tout ce beau monde dans le main event. On continue direction la division tag team ce soir. Alors, grosso modo, il n'y aura eu aucun match en 1-on-1 ce soir. C'est que du tag team, du 3v3. En l'occurrence, ça c'est Ricochet et Aleister Black.
Ça fait 4 jours, hein, 4 jours qui catch tous les soirs, les gars.
Oui. J'avoue, et du coup.
J'avais de la peine pour Aleister Black, quoi. Quand il est arrivé, j'ai fait putain, le gars, ça fait 4 soirs
de suite. Et sa planche là qui monte, elle grince toujours autant. Hein. Il y a toujours le bruit de pont-levis là, dégueulasse. Faudrait mettre un petit peu de WD-40.
Mais de l'huile.
Ouais, c'est ça. Tu fais des références que je sais pas si tout le monde va connaître. Mais... c'est bien, on va tester. Dites-nous dans les commentaires. Du coup, pour un petit peu les reposer, on leur a donné un troisième partenaire très particulier, puisqu'il s'agit de Ali, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler dorénavant. Ali, qui et tous les trois affronteront ce soir Shinsuke Nakamura, Rusev et Andrade dans un match tout à fait correct qui voit la victoire des gentils avec ce 450 splash pour la victoire de Ali sur Andrade après avoir remplacé un petit reverse DDT. Mais ça se termine pas là, puisque Randy Orton, qui passait par là, place un RKO sur Ali, qui était plutôt bien foutu. Je m'étonne toujours de me faire surprendre par les RKO de Randy Orton. Mais après, c'est la surenchère, puisque Rousseff se prend un stunner de la part de Kevin Owens. Et du coup, c'est dans ce passage que Randy Orton, quand il est reparti sous la rampe, il faisait genre, il était ébloui par les lumières.
Ouais. j'ai pas compris si c'était une référence à WrestleMania ou si c'était encore le cas.
Ah oui. Non, je pense que c'était une référence à WrestleMania où effectivement les fans, une partie des fans ne voyaient rien du tout du match parce qu'ils se prenaient les lumières dans la gueule et Randy Orton s'était excusé platement sur les réseaux sociaux pour dire bah, je suis désolé les gars. Mais ouais, si, carrément, je pense que c'était un petit taunt.
Ouais, j'avais oublié que c'était pendant son match en fait.
Si, ouais, c'était carrément pendant son match quoi. Donc, ce qui avait expliqué en partie que la foule était un petit peu désordonnée à ce moment-là. Voilà, donc tout le monde essaye de faire une grosse impression là avant le shake-up. Est-ce que quelqu'un t'a fait une grosse impression avant le shake-up dans ce. Là, c'était un petit peu regarder à SmackDown, on a du bon monde quoi.
Ouais, bah moi, c'est toujours, enfin, je veux dire, Black et Ricochet, je sais pas comment ils font, ils sont toujours aussi bons tous les soirs.
C'est ouf, hein. Autant cette team était amenée n'importe comment, autant ils sont.
Ouais, et non, mais c'était un match vraiment bien efficace avec les spots qu'il faut, avec ce petit poil d'humour, avec la séquence où comment Aleister Black son fameux flip sur les cordes où il retombe les jambes
en tailleur.
Et là du coup il y avait Ricochet qui faisait aussi une pirouette jambes en tailleur et là Ali qui n'avait rien à faire il est juste venu pour se mettre les jambes en tailleur à côté des autres.
Je peux venir les copains.
Et il y avait un côté un peu léger qui était plutôt sympa et puis c'était vraiment un match plutôt cool. Les comme tu disais enfin je parlais de spoiler mais les deux là par exemple Orton et Owens par contre je sais pas si ça sera Raw ou SmackDown peut-être que Owens va revenir à Raw mais je sais pas si Orton aurait vraiment sa place à Raw parce qu'il va pas avoir une position aussi comment il aura pas autant d'opportunités d'être dans le haut du panier par rapport à
SmackDown. Après c'est pareil, tout dépend qui jarte de Raw. Peut-être oui, je te donne aussi. Un Orton et tu me donnes trois. On verra plus tard que il y a eu un petit transfert visiblement en avance d'un gros morceau de viande. on en parlera juste après d'ailleurs. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Je vois bien Orton et Kevin Owens aller du côté de Raw après avoir est devenu un petit peu cassé la fin du match.
Ah ouais, non mais moi ce que je disais c'est que ces deux-là je sais pas trop en fait c'est les deux autant je pense que Ricochet et Black je les vois à SmackDown ouais. Mais Owens et Orton je sais pas vraiment en fait je pense que c'était surtout pour faire figuration un petit peu
ouais.
la semaine après Mania l'histoire de se rappeler
tout le monde monte sa gueule quoi. Bon, je vous parlais d'un gros morceau de viande qui est arrivé à SmackDown sans cri égard. Et ben, c'est dans la séquence qui suit, puisque on a R-Truth, c'est pas lui le gros morceau de viande, hein, et Carmella, c'est pas elle non plus, qui sont venus célébrer la victoire, hein, la Battle Royale. Alors, évidemment, R-Truth se plante en disant qu'elle a gagné le André the Giant Battle Royale, je crois. Il se plante et puis.
Ouais.
Non.
Mais je crois. Et puis, en plus, c'était très bizarre parce qu'il commence. Il dit c'était une nuit historique parce que Becky Lynch a gagné les deux ceintures. Tu te dis.
Ouais.
Pourquoi il rappelle tout ça?
Mais alors moi c'est un truc qui me rendait fou quoi. Je sais pas si je me souviens même plus si Arrow c'était déjà le cas, mais genre tout le long de l'épisode, tous les babyface étaient genre obligés toi de placer un mot pour Becky, une petite case dédiée pour Becky et Kofi leur victoire à Mania quoi. Genre, ouais. C'est bon, on a compris. Vous étiez tous devant votre télé pendant le match de Kofi, ok, d'accord, mais...
C'est parce que c'est des trucs historiques, alors il faut les répéter et répéter.
Ah ouais, l'histoire à WWE, c'est important, effectivement. Du coup, voilà, mais ce qui était important, c'était la victoire de Carmella à la bataille royale. Ils ont aussi Autre au fait, hein, fait le plus gros Seven Break Dance de l'histoire, devant 80 000 personnes, c'est pas rien. Carmela dit qu'elle est contente parce qu'elle s'est fait un pote, enfin voilà, elle a passé une bonne année, elle s'est fait un ami avec Art Schauf, ils sont bien et tout. Et Samoa Joe débarque. Lui, il vient là pour tuer, quoi, hein, il est pas là pour célébrer ou danser. Il veut vraiment... il appelle à la concurrence, quoi. Il va un petit peu de challenge, un peu de compète, quoi. Vu lui qui a expédié qui a détruit Rey Mysterio en moins d'une minute.
Il promet de détruire n'importe qui dans le roster en moins d'une minute.
C'est ça. Bah, écoute, moi j'attends de voir, hein, et pourquoi pas. Je sais plus, est-ce qu'il s'attaque à R-Truth?
Ouais, je sais pas. Non, j'ai pas l'impression, j'ai pas le souvenir que.
Je me souviens plus non plus, toi. J'aurais bien vu s'attaquer à R-Truth et Carmella, moi.
Oh, c'est possible qu'il les menace.
Bon, je pense que de toute façon...
C'est la suite qui est intéressante.
Ah bah oui, évidemment que c'est la suite qui est intéressante, puisque Braun Strowman arrive. Voilà, là notre gros morceau de barbac. Et il vient botter le cul de Samoa Joe, mais il se fait choper, il se fait prendre dans le choc, l'étranglement de Samoa Joe. Hein. Le célèbre étranglement de Samoa Joe. Samoa Joe qui veut étrangler tout le monde, mais il veut aussi étrangler Braun. Et ce que je kiffe trop avec Samoa Joe, c'est quand Braun Strowman arrive... Le mec, il fait « Allez, viens te battre !» et tout. Enfin, genre, le mec. Je pense à un des seuls heels qui recule pas en voyant Braun Strowman arriver. Mais Braun Strowman arrive à s'en sortir et Samoa Joe finit par se barrer. On nous tease quand même une feud entre deux sacrés morceaux, là. Ça promet. En tout cas, sur la balance, ça pèse lourd, déjà. Si t'arrives à mettre les deux sur la même...
Mais je crois que Strowman tente de faire un slam avec Joe et il s'en sort. Mais ça pourrait être vraiment très bien parce qu'on n'a pas vraiment. Je me souviens plus de la dernière feud de vraiment de grosses masses comme ça. Qui en même temps se débrouille vraiment au micro. Je pense que les deux pourraient faire vraiment une feud presque, j'allais dire presque originale, dans le sens où c'est deux mastoc, mais qui savent parler au micro, quoi, qui n'ont pas besoin de déléguer ou quoi que ce soit ou de manager. Et donc Joe qui même si Strowman n'est pas inspiré, Joe le sera toujours. Donc il peut voilà. Joe c'est quand même le mec qui a un peu ressuscité le règne de AJ Styles qui était en train de
bah on voit bien le résultat hein, AJ Styles étant loin de Samoa Joe il est loin de tout.
Bah là il est blessé en plus Styles.
Ah merde. Et, le con.
Ouais, du coup il est vraiment loin de tout. Non mais donc voilà, c'est sûr que ça fait saliver. Franchement, s'ils nous ont montré ça, c'est forcément que Strowman est dans le show bleu la semaine prochaine. S'il l'est pas, c'est complètement stupide. Mais donc voilà, ça fait saliver en plus de Drew McIntyre qui vient, etc. Ouais, que des bonnes nouvelles. Hein.
Ouais, on va. Enfin, j'aimerais. Faudrait qu'on regarde ça, tiens. Si
une fois regardez qu'ils vont perdre, par contre.
Ouais, c'est ça. Faut voir le shake-up. Et à la fin, faudrait
ils prendre vont le AJ Styles à Raw. Il est en convalescence pendant 2 mois. Hein, mais on vous l'envoie.
C'est ça. On le met sur la liste des blessés. Mais c'est vrai que ça fait un sacré barbecue, là. Avec tous ces gros morceaux de viande qui sont venus, là, qui viennent à SmackDown. Ça va être le show des Golgoth, SmackDown.
Voilà,
il faut bien vendre le passage à la Fox, hein. Donc. Nous mettre des monstres de foire.
Mais c'est vrai qu'il y a ça qui joue aussi.
Ah ouais, attends. Et surtout, Samoa Joe, moi, je suis impatient de justement de voir quel type de promo il va sortir à Braun Strowman, toi. Qu'est-ce que tu peux sortir comme promo pour un petit peu détruire verbalement Braun Strowman, ouais, toi. Autant, c'est l'art de Samoa Joe.
Il y a le fait que Strowman... Alors bon, c'est une corde sur laquelle il commence à tirer un petit peu trop, mais surtout Orton. Mais il y a le fait que Strowman est un produit WWE et que Joe, bah, il a quoi, 15 ans, même plus de 15 ans d'expérience sur le circuit. Donc du coup, il peut jouer sur le fait que... il a jamais, Strowman, il a jamais rencontré jamais rencontré vraiment un adversaire qui n'avait pas peur de lui, sauf peut-être Lesnar.
Oui, Roman Reigns quand même.
Oui, c'est vrai. Il y a eu...
Tu veux dire qu'il avait peur de Wonder Woman au fond de lui, il savait
j'ai,
que...
J'ai vu dans le regard de Roman. On va faire tout un épisode pour faire rager Gifkel. Non, bah, je sais pas trop, mais ce que je sais, c'est que je lui fais confiance. De toute façon, Samoa Joe, il trouve toujours quelque chose. Il nous a vendu une rivalité contre les Znar, alors que, à l'époque où tous les gens qui étaient, enfin, à chaque fois qu'il y avait une rivalité contre les Znar, personne n'y croyait. Enfin, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui s'opposait à Lesnar, personne n'y croyait. Et donc voilà, il serait capable de vendre surtout, n'importe quoi.
C'est surtout la garantie que ça va être deux mecs qui vont se rentrer dedans, quoi. Et ça c'est suffisamment rare d'avoir
et
ce
genre
de...
Je pense que Joe peut nous proposer quelque chose de nouveau, un peu contre Strowman, qui est pas, qui sera pas juste un combat David contre Goliath. J'espère, voilà, qui donne un peu de fraîcheur.
Bon, messieurs, il faut pas nous décevoir là. Ne nous décevez pas. On mise tout sur vous. Qui mise sur beaucoup, c'est Paige, puisque ou c'est après. C'est après la séquence. Ouais, c'est après la séquence. On a d'abord les Iconics qui débarquent. Les Iconics, justement. On parlait en off avec toi, Hank, on parlait du piètre règne de Sasha Banks et Bayley. Sasha Banks qui est en déprime et qui fait des posts sur les réseaux sociaux un peu cryptiques. Et ben les Iconics, elles viennent et surtout, ben en plus, elles rajoutent une couche en expliquant qu'elles vont un peu reprendre le principe qu'avait lancé Bayley et Banks de défendre un peu le titre, voilà, des championnes combattantes et de lancer des défis et pas de se cacher. Et du coup, ce soir, eh ben, elles vont tout simplement affronter des compétitrices locales, hein, des catcheuses locales, qui sont undefeated, donc invaincues, les Brooklyn Belles. Alors, vous l'aurez compris, c'était des jobbeuses, hein, évidemment, mais elles tentent de les mettre over. Donc, on a un match, un squash très rapide avec donc la victoire des championnes contre Christine et Carissa. Voilà, notez ces noms, vous ne les entendrez plus jamais. Belle victoire, donc, des nouvelles championnes tag team. Et après, on a une petite séquence backstage, justement, avec Paige, qui parle un petit peu comme si elle était toujours en train d'être general manager de SmackDown. Mais en fait, elle nous explique que la semaine prochaine, elle va ramener une nouvelle, je crois qu'elle précise nouvelle, hein, mais je suis plus sûr.
Oui, elle dit.
Parce que chaque mot est important. Ouais.
Une nouvelle tag team.
Une nouvelle tag team à la WWE. Ma question, toi, Hank, est-ce que tu es impatient de voir Nia Jax et Tamina à SmackDown? Ce sera plus Nia et Tamina, ce sera Tamina et Nia.
J'ai du mal à voir quelle tag team ils peuvent créer pour un petit peu donner un peu d'aura à cette ceinture. Je crois pas que ça va être Nia et Tamina, ça serait sacrément décevant. J'espère que ce n'est pas Aliyah et Vanessa Bourne de NXT. J'espère peut-être qu'ils créent de toutes pièces une tag team avec Candice LeRae et qui ça. Allez, soyons fous, ils sacrifient Kairi Sane. Kairi Sane et Candice LeRae. Non, ou non, c'est tout simplement Kairi Sane et Io Shirai.
Mais est-ce vraiment une nouvelle tag team? C'est une nouvelle tag team pour le main roster?
Ah oui, bah oui, mais faut toujours comprendre que le main roster ne
est totalement indépendant. Est une entité autonome.
À part 3 ou 4 jours pendant l'année, le main roster ne prend pas en compte NXT. NXT n'existe pas. Donc, oui, c'est une nouvelle tag team, hein, pour eux. Je sais pas exactement.
Moi, j'aimerais être surpris. J'aimerais que ce soit pas Yoshirai et Kairi Sane. Je sais que, enfin, n'importe quel smart veut que ça soit Yoshirai et Kairi Sane, mais j'aimerais être surpris, ouais. Peut-être une paire, tu dis Candice LeRae et puis une autre fille d'NXT.
Beth Phoenix et Natalia.
Ouais, peut-être que c'est nouvelle tag team dans le sens elles se sont reformées il y a pas longtemps.
Nouvelle tag team de pré-retraités. Non mais. Ouais, je sais pas exactement. Par contre, oui, la question que j'allais te poser, c'est moi qui ai suivi le produit de très loin ces derniers mois. Paige, elle est pas censée être toujours responsable de la division féminine, en fait ?
Non, justement. Non, alors, attends, non. Il y a eu un gros coup de tonnerre il y a quelques mois. Les McMahon sont arrivés. Ils ont dit, écoutez, les audiences, c'est de la merde. À cause de Baron Corbin. Alors, Baron Corbin, c'était sa faute. Mm-hmm. Et du coup, on reprend le show en main. Du coup, il n'y a plus d'histoire de general manager. Donc, tout a été remis à plat, remis à zéro. Il n'y a plus de general manager. Il n'y a plus de responsable de la division féminine. Alors qu'effectivement, à l'époque, ils avaient mis notamment Alexa Bliss à la tête de la division féminine. Mais genre, ça a duré 2 semaines. C'était un CDD très courte durée. Mm-hmm. Et la pauvre Paige était repartie à la queue entre les jambes, quoi.
Broucouille.
comme on dit dans le bouchonnois. Du coup, elle avait plus rien. C'est pour ça qu'elle revenait un peu en mode. J'étais là, mais attends, qu'est-ce que tu fous là?
Je sais pas. Mais des moments, on a l'impression qu'ils prennent pas trop en compte leur ancienne décision et que on reconnaît un petit peu les figures d'autorité et que ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Comme Shane donne des moments l'impression que en fait il a le pouvoir quoi sur le show que.
Bah, concrètement au niveau de l'organigramme qui est faible, c'est les McMahon qui ont la main mise sur les deux shows.
Ouais.
Donc n'importe qui, y compris. Vince, Triple H, Stephanie et Shane peuvent prendre des décisions sur les deux shows à n'importe quel moment. Ouais. C'est ce qui se passait au début, en fait. Au début, chaque semaine, t'avais l'un ou l'autre qui venait et qui bookait les matchs.
Et après, ils en ont eu marre de prendre l'avion, quoi.
Après, ils en ont eu marre, ils sont restés à la maison et puis c'était juste les scénaristes qui bookaient les matchs, les bookers, backstage qui bookaient les matchs, quoi.
Ouais. Mais Shane, du coup, ça me donnait plus cette impression-là parce que forcément, il était officiellement GM. Pendant tellement longtemps que voilà. Mais écoute, on verra bien la semaine prochaine, mais ça m'étonnerait pas que du coup non officiellement ils remettent Paige un petit peu comme bookeuse de la division féminine. En tout cas, ils l'ont ramené à, enfin ils l'ont invité à WrestleMania pour commenter.
Ouais. Ou tout simplement manager, tu sais, de team, quoi, d'équipe. Hein.
Ou c'est peut-être ça, ouais, ou c'est peut-être que ce qu'elle disait, en fait, c'est que c'était son équipe. Enfin,
c'est celle qui va les amener, quoi. Ouais.
Donc, du coup, pour mettre. Comment il s'appelle déjà ?
Mandy Rose et.
Oui, non, mais je cherchais le nom de l'équipe.
Absolution ?
Voilà, j'ai failli dire évolution, en fait. c'est tout fini par Sion. Donc, du coup, Absolution, faut les mettre à la poubelle, alors faut les séparer, tout ça.
Ouais.
Enfin, tu me diras maintenant.
C'est dommage, avec une belle division tag team comme la nôtre, là, ce serait dommage de péter les équipes qui sont des vraies équipes pour la peine, quoi. À la limite, tu les envoies à Raw pour pas qu'elles recroisent le chemin de Paige, si vraiment ou alors tu les gardes et puis tu construis un truc autour, ouais. Mais effectivement, à voir, ça attise notre curiosité. Tu parlais de Shane McMahon, et ben, ça tombe bien, puisque Shane est là, justement. Il est là, il nous explique que WrestleMania 35 était sold out parce que tout le monde est venu le voir mettre une pâtée aux Miz. Voilà, il se gargarise un petit peu d'avoir... Il nous raconte un petit peu ce qui s'est passé avec le père du Miz, George, qui était intervenu et qui est en train de mimer. Ah, j'ai vu ce type là, il est monté sur le ring. J'étais là comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me veut lui? Puis ça a approché. Alors je me suis approché. Il m'a regardé. Alors je l'ai regardé. Et puis il a commencé à vouloir se battre. Alors il a fallu se battre. Et puis il explique que si le Miz n'est pas là ce soir, c'est à cause ou grâce à lui. Il nous montre un beau coquard. Hein. Il a un bel œil au beurre noir. Il nous explique que c'est à cause de Georges. C'est Georges qui lui a fait mal.
Alors qu'il lui a pas mis un coup pendant.
C'est ça, oui. Alors je suis. Attends. Ouais, mais attends, il t'a pas touché, le mec. Il est très.
Non, finalement.
Mais bon. C'est la force mentale de Georges.
Monsieur tête de patate.
Ouais. C'est tellement génial, ça. Quel beau méchant. Et après, il s'en prend évidemment à l'annonceur, Greg Hamilton. Il dit tu vas m'annoncer comme étant the best in the world. Et alors l'autre il le fait une première fois, ça lui convient pas. Et puis alors là c'est vraiment le sketch du petit chef, du petit con qui fait répéter sans cesse, qui redonne le même ordre sans arrêt parce qu'il est jamais content. Donc le pauvre Greg Hamilton il va dire au moins 15 ou 20 fois annoncer Shane McMahon le the best in the world, et donc il va le traîner par la cravate. On sait qu'il y en a qui se sont fait virer pour moins que ça, jusque sous le petit entron. Et à la fin, il parviendra enfin à le dire correctement, parce que c'est vrai qu'il le disait mal. Hein. Il l'annonçait mal. Greg Hamilton donc place l'annonce et Shane McMahon repart un petit peu tranquille, voilà, parce qu'il a eu ce qu'il voulait et puis il a montré que c'était lui le patron, quoi. C'est
après,
vrai.
Après, il danse alors qu'il y a pas de musique.
Oui, il fait sa petite danse tranquille, voilà, en silence, quoi, et puis il repart. Bon voilà, hein, on vient de nous montrer que c'est lui le grand méchant, c'est Shane McMahon.
Ouais.
C'est vraiment l'angle du sale petit chef.
Un petit peu pour passer le temps, quoi, ce segment. Mais
ça a duré longtemps, ça c'est sûr.
Il y avait rien du tout. Enfin, il n'y avait aucun élément en plus par rapport à ce qu'on sait. C'est vrai que la séquence. Bon, il l'avait déjà fait à WrestleMania, mais la séquence où il fait répéter. Je ne sais plus son nom d'ailleurs.
Greg Hamilton,
voilà. Il le fait répéter, c'est vrai que. C'est marrant, il y a des moments où j'ai un peu mal quand même pour lui, pour Greg Hamilton, parce que il y a un poil d'humiliation dans le truc, genre en mode le moment où du coup il tire tellement sur la, enfin il est en train de descendre du ring et il tire tellement sur la cravate que l'autre il est étouffé. c'est un peu limite, mais c'est de l'humour McMahon, quoi, c'est ça, quoi, c'est des moments où on fait hop.
Ouais, j'ai vu ça comme un petit clin d'œil à Justin Roberts, qui a sorti son bouquin il n'y a pas longtemps, là. L'ancien annonceur de WWE. Si vous aimez les mecs qui balancent des gros dossiers, des grosses cartouches sur leur employeur, en l'occurrence à WWE, je vous conseille ce bouquin.
Attends, je lirais bien ce truc.
Parce qu'il balance, hein. Oh la vache, putain, il y a tout qui passe. Hein. C'est, le mec a visible... C'est sa version à lui, toi, mais quoi, tu lis, il a vécu un enfer alors que c'était juste un mec un fan qui rêvait de bosser pour la WWE et à la fin, il est juste dégoûté de WWE parce qu'on lui a fait vivre un enfer pas possible. Et c'est lui qui s'était fait justement étrangler par Daniel Bryan avec la cravate et qui avait causé qui est faible le départ de Daniel Bryan. Donc, il y avait un petit, je sais pas si c'était fait exprès, mais moi, j'ai vu ça encore. J'ai vu ça.
Mais ouais, non, c'est, il y a tellement de soi-disant rumeurs et de choses qui remontent régulièrement à la surface que au bout d'un moment il y a forcément au moins 10% de tout ça qui est vrai, et ne serait-ce que ces 10% qui sont vrais, c'est une entreprise très bizarre, la WWE.
Ouais, façon pour avoir tous les points de vue, faut lire tous les bouquins et ouais, lire, quoi, puis ça prend du temps. Puis c'est pas toujours très bien écrit, alors bon, à voir.
Moi j'aime bien, c'est quand Jericho raconte ses échanges de SMS avec Vince McMahon aussi. N'hésitez pas à regarder Inside the Ropes avec Jericho. Il y en a plein, des vidéos d'Inside the Ropes avec Jericho. Et y a des moments où il sort des trucs, des échanges avec Vince McMahon. Tu te dis, mais c'est vraiment. Il réfléchit vraiment. Il a une telle rancune, Vince McMahon, pour le moindre truc.
Ouais, effectivement, ça a l'air d'être un sacré personnage, mais que veux-tu? C'est lui le boss du game, hein. Donc pas. C'est pour en arriver là, il faut aussi savoir un petit peu se débarrasser des opportuns. En parlant des opportuns, il y a une grosse opportunité, une opportunité de titre ce soir, puisque comme à Raw, on a un match pour le titre tag team. Les Usos qui placent une petite case dédiée à leur frangin. Kofi, hein, comme tout bon babyface ce soir, comme je vous l'ai dit, ils ont un match face aux Hardy Boys qui n'étaient pas du match pour le titre à WrestleMania, mon grand regret. Donc du coup, ils ont séance de rattrapage. Et tant mieux pour eux, puisque les frangins Hardy, à la faveur d'un twist of fate suivi d'une swatum bomb, remportent le match et deviennent donc les nouveaux champions tag team par équipe de la de SmackDown, pardon, du show bleu. Victoire célébrée de façon très courte par Matt et Jeff, puisque le freak Lars Sullivan débarque et allonge les deux hommes avec son freak accident là, et son sauté, son headbutt là, tout en finesse.
Ah, tout droit vers les jobbers d'ici 3 semaines
pour the freak. pour ouais, Lars Sullivan, le gentil monstre.
Non, c'est juste, c'est une introduction. Enfin, c'est la Raw, c'est la SmackDown, c'est nul. Enfin, il y a pas d'intensité dans ce qu'il fait. On comprend pas vraiment pourquoi il arrive à ce moment-là, etc. Et puis il vise les personnes un peu.
Retraité.
Ouais, voilà, mais bon, il vise Kurt Angle. Qu'est-ce que tu veux te taper de la heat contre Kurt Angle, sachant que toute la heat contre Kurt Angle, elle a déjà été prise par Corbin. Donc ça sert à rien.
Il te reste un petit peu de heat, s'il te plaît, vas-y, balance voilà, un peu de heat.
Je voudrais 5% de heat sur la rivalité Corbin-Kurt Angle, s'il vous plaît. Mais donc, ouais, non, c'est très mal. Alors, pour le coup, ça fait partie des trucs qui sont très mal faits. Je trouve, c'est vraiment l'introduction de Lars Sullivan. Enfin, la deuxième introduction de Lars Sullivan, puisqu'il nous a...
La réintroduction.
Il a eu quelques soucis psychologiques. Ouais, donc vraiment pas convaincu. Je suis pas persuadé que, même s'il est poussé, je suis pas persuadé que ça dure pendant très longtemps, parce que je trouvais vraiment que Lars Sullivan n'aurait pas dû arriver dans le roster principal, parce que c'est pas un mec qui a eu une hit incroyable à NXT. Il a jamais fait de match qui était vraiment référence ou marquant, etc. Je trouve que le personnage était pas encore bien défini, quoi. Donc il y a clairement des heels qui sont meilleurs que lui à NXT, quoi. Donc,
ouais.
Donc là, le faire monter comme ça dans le roster principal, ça me rappelle un peu Elias quand il est monté et que on se disait il est pas vraiment à NXT, il a pas convaincu. Alors Elias a réussi, coup de génie.
Il se fait sa place, mais pas entre les cordes, quoi.
Ouais, voilà. Donc Lars, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que il va falloir qu'il fasse des gros efforts, ou alors qu'on l'aide beaucoup pour qu'il fasse avancer son personnage. Mais je pense que personne n'a peur de Lars Sullivan cette semaine. Hein.
C'est le gentil monstre. Celui, c'est mon compagnon.
Il arrive,
quoi,
pour ramasser des miettes à chaque fois.
C'est... Ouais. Moi, c'est peut-être pour ça qu'on envoie tous les Golgoth à SmackDown, comme pour le faire une petite place à Raw, toi, pour qu'il... Parce que moi, il m'a paru tout petit, en fait. Quand il a pas son entrée de NXT avec en contre-plongée, à contre-jour, avec ses poils comme ça que tu aperçois, sa silhouette poilue. Là, tu le vois arriver, c'est juste un mec déformé qui a pas l'air très malin, quoi. Et puis
c'est dur d'introduire Lars Sullivan quand t'as introduit Braun Strowman, un quart d'heure avant, quoi. Ça aussi, c'est une logique. Après, bon, c'est facile, on est là à commenter, à avoir regardé le show, etc. Mais c'est quelque chose qu'ils auraient dû voir quand même sur leur planning. C'est-à-dire que quand t'introduis Braun Strowman qui arrive à SmackDown, tu peux pas 15 minutes après dire « Oh mon Dieu, Lars Sullivan, la bête incroyable !» Non, non, il y a Braun Strowman qui était là il y a 10 minutes avant et qui pèse genre 50 kilos de plus.
Ouais.
Donc, non. ça fonctionne pas.
Et sur le passage de ceinture, là, petite réflexion entre les Hardy, les Uso. Les Hardy qui ont bien fait de revenir, hein, pour la peine, à WWE.
On prend les mêmes et on recommence. il y a deux ans, hein. C'était il y a deux ans que juste... alors, pour le coup, c'était à Mania. Là, c'est le surlendemain de Mania. Ouais. Les Hardy sont de retour, on leur donne la ceinture. Enfin bon, ils étaient déjà de retour depuis... Je sais pas.
Ils étaient revenus, ouais, mais ils avaient rien vraiment fait d'eux. C'était même
ici
un peu dommage.
Là, quoi. Mais bon, faut saluer que Matt Hardy a enfin retrouvé la ligne.
Il va à la salle, hein, le mec.
C'est plutôt bien. Après, mon seul problème, c'est que j'ai pas du tout de nostalgie pour les Hardy Boys. Et j'ai vraiment l'impression, à chaque match que je vois d'eux, en fait, j'ai l'impression de voir les mêmes choses tout le temps.
Ouais, donc, c'est clair. Ils sont venus et ils vont repasser pour passer le plat là entre les Uso et puis les prochains champions, quoi.
J'espère que ça va pas être non plus un règne qui dure trop trop longtemps, mais donc voilà, j'ai rien de spécial à dire. De toute façon, les Uso, je pense que eux-mêmes avaient pas vraiment de ils ont eu leur victoire à Mania, peu importe de perdre deux jours après, quoi. Tout le monde gardera en tête la victoire de Mania. Tout le monde aura oublié la perte de ceinture à SmackDown.
Bon, bah, il n'y a pas Killer Sullivan d'ailleurs qui fait des allers-retours entre Raw et SmackDown. On a aussi Becky Lynch qui est là pour nous faire une promo qui t'a plu visiblement, ce que tu disais au début de notre analyse. Elle est focus, elle est en mode confiance et elle va défendre ses deux ceintures dans les deux shows, quoi. Hein. C'est Becky Two Bells, hein, bordel de merde. Donc, elle est le champ-champ, comme elle dit. Faut choisir soit champ-champ, soit Becky Two Bells. Voilà, envoie un ou deux au 8-28-28 pour choisir le nouveau surnom à la con de ta championne. Et puis elle essaye de célébrer un petit peu sa victoire une fois de plus. Mais Lacey Evans débarque et lui place son Woman's Right hein, pour l'étaler, ouais. Je crois. Et elle s'en va, celle qui s'en va du coup. Ouais, elle met son coup de poing et elle se barre.
Oui, en fait, Becky reste à terre pendant super longtemps et, ouais. Et
elle l'a enfin vendu parce que Arrow, elle avait juste pas vendu le finisher ouais. De.
C'était genre. Arrow, c'était genre. J'ai attends.
Mais qu'est-ce que.
Mais alors, je vais pas dire que la promo était incroyable, mais ce que je voulais dire, c'était que on avait l'exemple d'une promo babyface, donc à Raw et à SmackDown de Becky Lynch, qui pour moi, ça raconte pas grand chose, mais c'est fait avec énergie, donc du coup, c'est au moins agréable à écouter. Ouais. Et en plus, c'était pas exactement les mêmes mots, mais bon, c'était le même propos. Mais, ouais. Mais voilà, c'est fait avec énergie, tu vois. C'était ma comparaison avec Kofi Kingston où on a l'impression que Kofi Kingston, il est à son anniversaire, on vient de lui offrir un cadeau et puis il fait oh merci beaucoup.
Et puis il est obligé de dire merci. Sinon, c'est pas très sympa pour quelqu'un qui tu viens de t'offrir un cadeau.
Oui, voilà. et il a pas l'air, du tout conquérant. Il nous ouvre pas vers le futur, en fait. Il nous excite pas pour le futur, en fait. Il est juste là pour dire c'est bien, merci. Et donc Becky,
c'est l'inverse.
Ça m'étonne que ça soit Lacey Evans qui soit mise en avant direct pour une possible nouvelle rivalité. Est-ce que c'est juste pour peut-être juste pour gagner du temps jusqu'à la semaine prochaine, hein, qui sait.
Peut-être. Au moins, ça a le mérite d'être rafraîchissant, toi. On a un peu fait le tour des challengers. Entre ceux qui sont pas intéressants et ceux qui bootent sur Twitter.
Alors j'espère vraiment que Lacey Evans, j'espère qu'il l'entraîne vraiment bien en coulisses là, parce que ce qu'elle a fait pour l'instant dans le main roster ou dans participation à des multi-women.
Elle a rien fait encore en main roster.
Je crois qu'elle était dans une. C'était quel Battle Royale
le Rumble. Elle avait ouvert le Rumble. Elle a fait une grosse promo. Elle a eu un face-à-face avec Charlotte.
Ouais, mais ce qu'elle avait fait au Rumble, c'était juste...
Mais c'était ridicule. Elle s'était fait jarter par Natalia, je crois.
Donc voilà, il y a la pression. J'espère que c'est... Je pense que c'est surtout ça, en fait. Je pense que c'est... J'espère que tous ces allers-retours en mode top model vont l'habituer à être dans une grande salle. Donc, parce qu'elle est capable de faire un match correct.
À NXT, ouais.
Voilà. C'est pas, on n'est pas dans les catastrophes justement à la Alia, Vanessa Bourne là, qui ont genre littéralement trois moves et qui avancent à vitesse d'escargot. Donc curieux, voilà, curieux de tout ça et puis curieux de voir comment vont se passer. Est-ce qu'il va pas y avoir une arnaque sur les ceintures de Becky? Parce que
une arnaque.
Dans le sens où au moment de la draft, peut-être qu'ils vont annoncer, Becky, t'as deux ceintures.
Tu dois en choisir une.
Ouais, voilà, tu dois en choisir une, tu vois, ou un truc du genre. Parce que je pense que ça va être quand même sacrément compliqué pour eux de booker perte de deux ceintures. Parce que forcément Becky doit la perdre. Enfin, j'imagine pas perdre une ceinture et pas perdre l'autre, en fait. Enfin, je veux dire dans le même espace de temps. Je pense qu'elle va perdre les deux ceintures dans un espace assez court, quoi. Donc peut-être.
Ouais, c'est une bonne question. Effectivement, ça peut être un angle sympa de dire tu dois choisir une ceinture, laquelle tu dois choisir. Est-ce qu'elle irait vraiment choisir? C'est difficile pour un babyface de se retrouver à choisir.
Ou alors, elle va devoir défendre la ceinture de Raw le lundi Raw, qui va suivre avec en multi, c'est contre 5 autres adversaires féminines. Enfin, 5.
Ouais,
5 autres filles. Et 5 autres filles à SmackDown le jour d'après. Et
à SmackDown, ça va être plus compliqué parce qu'elle se sera fait bouffer la veille. Et...
Oui, voilà, peut-être qu'elle va garder la ceinture de Raw et perdre la ceinture de SmackDown.
Et aller à Raw, ouais, bah carrément. Voilà. Moi, je vois bien un truc comme ça.
Parce que c'est compliqué. Du coup, Becky Lynch va pas être dans la draft. À quoi ça draft elle paye de ça. Enfin bref, donc voilà, je suis assez curieux. Ils ont donné aucun indice de ce qui va se passer vis-à-vis de ces ceintures-là.
Bon, en tout cas, il y en a un qui est venu nous mettre une cartouche, c'est Sami Zayn. Il est venu, il a dit. En fait, vous ne méritez pas. Puis il est reparti.
Les classiques. Les classiques.
Et on arrive au main event. Le New Day qui a affronté donc Sheamus, Cesaro et Drew McIntyre. Pendant la pub, Drew McIntyre a disparu parce qu'il s'est blessé visiblement. Et à la fin, Kofi place son Trouble in Paradise sur Sheamus. Pour la victoire, donc victoire évidemment, hein, du champion et de ses deux frangins, dans un tout petit match, hein, ça n'a même pas duré, même pas 8 minutes. Hein.
Ouais.
Et puis surtout ce truc très bizarre, hein, Drew McIntyre qui est complètement disparu, et à la fin, la célébration tant attendue pour Hank, qui adore voir le fils complètement taré de Kofi, sauter sur les cordes, femme et enfant sont là.
Tu sais, j'ai arrêté avant de la regarder. Là.
C'est vrai.
J'ai vu que les enfants arrivaient, j'ai fait oh non, c'est bon.
Oh non, une famille heureuse. Non.
Je coupe. Non, du bonheur.
Et clap de fin. La fête est vraiment terminée. Je veux dire, WrestleMania plus Raw plus SmackDown, tout ça, c'était pareil. On a fini de célébrer la victoire de nos chouchous. Avant de prochaines aventures, hein, les aventures incroyables de Kofi Kingston qui s'annoncent, en espérant que Drew McIntyre s'est pas cassé la cheville.
Ouais, c'est vrai. J'espère que.
Je sais pas ce qui lui est arrivé. Hein.
Ça va pas durer trop longtemps s'il a besoin de prendre une petite pause. Un épisode de SmackDown qui a pas énormément fait avancer les choses, mais qui avait pas tant de passages vraiment. Ennuyant non plus. Alors peut-être que c'est mon habitude de. Voilà, j'ai tellement en plus regardé d'épisodes de Raw que de SmackDown, donc du coup. j'ai mes critères sont plus bas. Mais. C'était pas ouf. Mais c'était pas horrible non plus. Bon, il y avait quelques indices du futur.
Ouais, ça, on a planté. Quelques petites graines pour le futur, et le futur c'est le shake-up, c'est la semaine prochaine, mais avant ça, c'est l'heure du mot de la fin, donc Hank, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Alors, mon top, c'est la suite Randy, RKO et Owens avec son stunner, parce que j'ai trouvé ça, la première fois j'ai fait... Enfin, Orton qui passe, j'ai fait « Oh !» Et après, j'ai vu Owens, et là, j'ai éclaté de rire. Il y en a combien? C'est quoi, c'est une voiture de clown? Donc, ouais, non, c'était marrant. Et mon flop... qu'est-ce que c'est mon flop? C'est Lars Sullivan. Qui, pour moi, pas vraiment de place pour l'instant dans les rosters principaux. Je sais pas comment ils pourraient l'amener, mais en tout cas c'est pas la bonne façon. Et ma note, on va être gentil, 3,5.
Oh oui, ça va, ok, ouais, très bien. Ouais,
c'était agréable, c'était pas marquant, mais c'était agréable.
D'accord, ok, je vois le genre. moi, mon top, je vais le donner à cette promesse de duel entre les deux Golgoths, Braun Strowman et Samoa Joe. Je trouvais que c'était vraiment annoncé du lourd là pour le futur.
C'est vrai.
C'est plutôt bien vu. Mon flop, mon flop, je vais le donner à cette célébration de Kofi qui manquait quand même un petit peu de saveur au début, mais
mon flop, je le donne au bonheur.
Je le donne au bonheur. Bon, voilà, c'est pas, il y a pas vraiment une y a rien qui m'a vraiment, toi, c'était pas ça, tout ça allait, mais bon, je sais pas, j'ai trouvé que ça manquait un peu de folie, mais c'était pas, on en était pas là, c'était vraiment en mode, voilà, c'était mon pote, je suis content d'être là et tout. C'est un petit flop. Et ma note, pour autant, je vais mettre 2,75, puisque je me suis j'ai trouvé ça que ça ressemblait vraiment beaucoup à Raw pour avoir vu les deux shows. J'avais un peu l'impression de revoir un petit peu la même chose.
Bon, je dois t'avouer, maintenant j'ai surnoté pour respecter Giscal.
Ah, c'est très bien. C'est très bien. La vérité est toujours entre les deux. Mais que c'était plus court, du coup, quand c'est plus court, bah, c'est mieux. Ça, ça marche pas dans tous les domaines de la vie.
Mais... des fois.
N'appliquez pas ça dans tous vos. Voilà, dans votre vie en général, hein, mais. Là, là, c'était ça, ça roulait plutôt tout seul.
Plus c'est gros, plus ça passe.
Voilà, vous avez
compris. Il y en a plein des comme ça.
Allez, donc n'oubliez pas, Catch-up, votre podcast qui résume, analyse des shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver évidemment en audio sur PodCloud, sur iTunes, sur Spotify, en vidéo sur YouTube, sur les réseaux sociaux, c'est Catch-up CDC, Twitter, Facebook, Instagram. On a aussi un lien Discord. N'hésitez pas à cliquer dessus dans les dans la description de l'épisode. N'hésitez pas également à nous dire en commentaire votre top, votre flop, votre nob, ce que vous avez aimé, pas aimé, quelles sont vos attentes pour le shake-up qui aura lieu la semaine prochaine. Il va y avoir du changement à tous les étages. Hank, je te remercie de m'avoir rejoint dans la Maison Bleue pour critiquer et analyser ce show du surlendemain.
Et oui, et je sais pas, ça fait ultra longtemps que j'avais pas fait un épisode de SmackDown. Je crois que ça fait plus d'un an hein, que j'ai
alors pas fait de SmackDown.
Yes. Et ben ça fait bizarre parce que ça passe vite et on se plaint beaucoup moins.
on a pas le temps de se plaindre que c'est déjà terminé. En
fait. Voilà, exactement. Bravo SmackDown.
on vous donne rendez-vous en tout cas la semaine prochaine et d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut.
Salut. Voilà, il va falloir changer, etc. Il va falloir changer de tag team, etc. Parce que ça n'excite personne.
Exactement, ça n'excite personne, c'est Sasha Banks and Bayley.